Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel, avec dans 30 minutes maintenant vos témoignages et réactions au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'un des principaux dépôts de munitions de l'armée tchadienne à Djamena, dans le quartier de Goudji. Le premier bilan fait état de 9 morts et de 46 blessés. Les dégâts matériels sont très importants. Du dépôt de munitions, il ne reste plus rien. Et les explosions ont été si violentes que des obus, des munitions ont été projetées sur les quartiers limitrophes, détruisant des habitations. Alors, comment avez-vous vécu cet événement? Quelles leçons faudra-t-il tirer, bien évidemment, de cette catastrophe? Un drame qui relance une fois de plus le débat sur la présence de poudrières, de sites sensibles en plein cœur des villes. Vous nous appelez, RFI vous donne la parole, 33 9 693 693 70, et j'ai déjà sous les yeux de nombreux témoignages que je lirai bien évidemment tout au long de l'émission. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec une question justement sur cet incendie du dépôt de munitions à Djamena. Bonjour David.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes dans la capitale tchadienne, on vous écoute.
Oui Juan, quelles sont les circonstances connues de cet incendie? Connaît-on l'étendue des dégâts?
Alors, on va essayer de faire le point, vous dire ce que l'on sait à cette heure-ci exactement avec François Mazet. Bienvenue François.
Bonjour Juan et bonjour à David.
Journaliste au service Afrique de RFI. Que sait-on pour l'instant sur les causes?
Alors les causes de l'incendie, pour le moment, elles sont inconnues. Un groupe de 6 ministres hier a été mobilisé en milieu de journée pour donner des précisions à la presse. Au cours de son intervention, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, a estimé qu'il était prématuré de spéculer sur l'origine criminelle ou accidentelle de l'incendie. Une déclaration un petit peu différente de celle du porte-parole du gouvernement qui, quelques heures auparavant, avait parlé d'un problème non intentionnel et dit qu'il n'y avait pas de cause criminelle pour l'instant. Quoi qu'il en soit, on sait donc qu'une enquête a été ouverte et on verra ce que diront les conclusions. Cet incendie, il a débuté vers 22h30 local, il a duré plus de 2 heures avec des explosions multiples entendues à des kilomètres à la ronde, des projectiles dans le ciel de la capitale, des panaches de fumée rouge qui ne se sont dissipés qu'en fin de journée, et bien sûr il a occasionné une panique générale, une grande peur dans les quartiers proches de la poudrière de Goudji.
Je le disais en préambule, François, les dégâts matériels sont très importants.
Oui, effectivement, sinistre, dégâts considérables, c'est ce qu'a dit le gouvernement. C'est vrai que les photos et les vidéos qui circulent sont très impressionnantes, montrent que le site du dépôt est totalement réduit en poussière avec de gros cratères d'explosion. On a aussi vu beaucoup de dégâts alentour dans les habitations. On l'a entendu ce matin à l'antenne avec le reportage de Carole Valade, les plafonds troués, les murs effondrés, les commerces détruits par ces projectiles. Un certain nombre de munitions n'ont pas explosé, donc les autorités ont beaucoup communiqué aussi sur l'importance de ne pas toucher aux projectiles, d'appeler les services de déminage. Et puis il y a le bilan humain, 9 morts, 46 blessés au moins, bilan provisoire, puisque certains de ces blessés sont dans un état qualifié de gravissime. Les autorités ont assuré qu'elles n'avaient rien à cacher sur le sujet. Le ministre porte-parole Koulamala a dit que toutes les données étaient vérifiables et il s'est inscrit en faux contre des bilans plus lourds qui ont circulé sur les réseaux sociaux.
Voilà, et si vous trouvez des munitions, des obus, surtout ne les touchez pas. Et effectivement, vous le disiez François, un numéro de téléphone est à la disposition de la population. J'en profite d'ailleurs pour le donner, je le redonnerai tout à l'heure. 66 29 89 99. 66 29 89 99. Vous avez une dernière question, David?
Exactement, Juan. Pourquoi cet entrepôt était-il installé à proximité des habitations?
Alors en fait, ce serait plutôt l'inverse. Les habitations qui ont été construites près du dépôt. Le ministre de la Défense l'a expliqué hier en rappelant que le site, qui est un des principaux de l'armée dans la capitale, voisin de plusieurs garnisons et de l'aéroport, il existe de longue date. Qu'à l'origine, il était construit dans une zone de broussailles éloignée des habitations. Sauf que, au fil des décennies, exode rural, augmentation de la population, urbanisme anachronique, Djamena s'est étendu, comme toutes les capitales africaines, et le quartier quartier Gouji a prospéré autour de la poudrière. Le site n'a jamais été déplacé, sans doute en raison de son importance et de sa localisation stratégique. S'il y a eu des insuffisances, l'enquête situera les responsabilités, a dit le ministre Liman Mahamat, soulignant de nécessaires efforts d'aménagement pour éloigner ce type d'installation des zones habitées. Le président Mahamat Idriss Déby s'est rendu sur place et il a dit la même chose, qu'il fallait apprendre les leçons de la situation, prendre des mesures sur ces magasins d'armes en pleine ville. Il a aussi rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une première, donc on verra s'il y aura des actes après ces paroles.
À suivre. En tout cas, nombreux sont les auditeurs à attendre justement des gestes plus que symboliques de la part des autorités après ce drame. On en parle tous ensemble, vos réactions, vos témoignages, juste après la dernière édition d'Afrique Matin aux alentours de 9h40, heure de N'Djamena. David, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, exactement. Merci à François. Et je profite par cette occasion de dire bonne journée à toute l'équipe de la rédaction, aussi bien à Nathalie, à Marc, qui est la surnom, c'est-à-dire la dame de fer de micro à la RFI.
La dame de fer ? Non, non. Alors, peut-être qu'à l'antenne, mais croyez-moi, elle est très sympathique, Nathalie. Elle est dans les couloirs, je suis sûr qu'elle vous écoute en ce moment. Merci en tout cas de votre fidélité et de vos encouragements. François Mazet, à très vite.
Bonne
merci
journée.
Beaucoup.
Merci.
10h16 ici à Paris. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Roger.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et vous avez des questions sur la polémique autour des salaires des députés nationaux dans votre pays.
Oui, effectivement, Juan. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, a affirmé que le salaire des députés avait été à 5 000 $, alors que de nombreuses associations de la société civile affirment que c'est défabulisé. Alors, comment expliquer qu'on ne sache pas précisément combien ils sont rémunérés ?
Ouais, c'est vrai qu'on assiste à une bataille de chiffres. Qui dit vrai ? Le président de l'Assemblée nationale ou ses organisations de la société civile ? Bonjour, Itiel Batoumike.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste au centre Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Alors effectivement, Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, a affirmé il y a quelques jours qu'un député touchait désormais 14 millions de francs congolais par mois, soit plus de 5 000 $, avantages compris, a-t-il souligné. Est-ce que ça correspond à ce que devrait percevoir un député ?
Alors, je dois dire que lorsqu'on examine la loi de finances pour l'exercice en cours, on se rend compte qu'effectivement, il n'a pas raison et que déjà le salaire lui-même, la base du traitement d'un député national avoisine les 10 000 $. Donc, ce n'est ni donc 5 000 $, et là, on n'a pas encore mis tous les avantages des députés nationaux. Et donc, il n'est pas compréhensible que le président de l'Assemblée nationale puisse pêcher au devoir de transparence qui devrait être attendu de lui au regard de ce qu'il a fait comme promesse lors de son élection à la tête du bureau de l'Assemblée nationale.
Alors effectivement, vous faites référence à la loi de finances 2024. L'enveloppe qui est dédiée au salaire annuel des 500 députés est de 50 150 000 $. Quand on divise par 12, pour savoir combien de millions de dollars par mois, et ensuite par 500, on arrive à un peu plus de 8 000 $. Quel est donc l'intérêt, Itiel Batoumike, de ne pas dire la vérité concernant le salaire des députés ?
Alors, je pense que l'intérêt pour les autorités congolaises aujourd'hui, c'est d'essayer de ne pas officiellement assumer les disparités alarmantes et criantes qu'il y a entre les rémunérations des dirigeants politiques et les restes des agents publics de l'État, et aussi face à la misère qui se vit au pays actuellement, dire des chiffres aussi extravagants pourrait finalement constituer un scandale d'État. Et j'estime qu'il s'en empêche la divulgation au risque d'avoir des soulèvements ou des revendications dans d'autres corps de métiers des services publics de l'État, où vous avez les fonctionnaires, les militaires, alors que le pays est en guerre actuellement et les militaires ne touchent pas grand-chose et annoncent publiquement des sommes extravagantes.
Mais oui, mais alors j'avoue justement, vous parlez de sommes extravagantes, j'avoue qu'on est quand même perdu. Le ministre parle de 5 000 $ par mois. Des ONG disent on est plutôt sur 9 000, 10 000. D'autres affirment même qu'avec les primes, les frais spéciaux, on est à 18 000 $ par mois, voire même 21 000 $ par mois pour les députés. Vital Kamerhe a été très clair, et on va conclure là-dessus. Je mets quiconque au défi de prouver que les députés touchent 21 000 $ tous les mois.
Exactement. Donc l'année passée, c'était au cours de la mandature passée, c'était autour de 21 000 $. C'était documenté. Il y a des députés nationaux qui l'ont assumé publiquement. Et ceci, je le rappelle, ont été même menacés d'exclusion de l'Assemblée nationale. Les anciens députés Jean-Baptiste Kasekwa et Délice Essanga ont même été entendus dans une commission disciplinaire de l'Assemblée nationale.
Mais entre-temps,
on voit clairement qu'il y a un manque de redevabilité, un manque de transparence dans la gestion des finances publiques.
Mais entre-temps, vous le rappeliez, c'était important, Itiel Batoumiké, Vital Kamerhe s'était engagé à réduire le salaire des députés et il l'a redit. Nous avons dit que nous allons restreindre la tension salariale. Donc le salaire des députés, si on en croit toujours évidemment Vital Kamerhe, a été divisé par deux. Affaire à suivre, en tout cas, ça passionne évidemment et ça ne laisse indifférent aucun Congolais. Merci d'avoir pris quelques instants, Itiel Batoumiké. Roger, je vous souhaite une bonne journée à Lubumbashi.
Merci, Gouane. Merci aussi à tous les auditeurs, les agents et aussi les rédacteurs de la RFI.
Bah, merci de vos encouragements. Bonne journée. Antoine Grenier, on s'est permis de l'appeler ce matin. C'est l'envoyé spécial de RFI à l'Euro 2024. Bonjour, Antoine.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Antoine qui sillonne l'Allemagne pour nous permettre de vivre en direct les plus importants matchs de cette compétition. On a évidemment ce matin, Antoine Grenier, des questions sur Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez mardi soir à la dernière minute du match France-Autriche. Bonjour Josué.
Bonjour monsieur Juan, c'est le Cameroun.
Vous êtes au Cameroun, alors mettez bien le combiné près de la bouche qu'on puisse bien vous entendre. On vous écoute, quelle est votre question? Quelle est votre question, Josué?
Allô?
Oui, on vous écoute, allez-y.
Oui, mon souci était lors du match musclé France-Autriche, le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, s'est cassé le nez.
Oui.
Quelle va être la stratégie des Deschamps pour compenser son absence sur le terrain face aux Néerlandais demain soir?
Alors, Kylian Mbappé sera-t-il absent demain soir face aux Pays-Bas? Antoine Grenier, vous le confirmez, pour l'instant, son forfait n'est pas annoncé.
Non, pas officiellement, effectivement. Il subsiste encore un petit doute sur l'absence de Kylian Mbappé face aux Néerlandais. D'ailleurs, les Néerlandais eux-mêmes ne croient pas en son absence. Ils pensent qu'il sera là, ils se préparent en conséquence. En tout état de cause, la Fédération française maintient le suspense. Hein. Plusieurs médias l'annoncent forfait. Des médecins spécialisés en otorhino-laryngologie ont émis des doutes hein, sur sa capacité à jouer les matchs à venir. Mmh. Et puis, hier, il est apparu à l'entraînement, avec un joli pansement sur le nez, footing léger, quelques passes avec le préparateur physique de l'équipe de France, et puis séance de frappe avec ses coéquipiers. Mbappé n'a pas participé à tout l'exercice, mais il était bien là, en crampon, pour laisser planer encore un petit peu plus le doute sur sa présence au prochain match demain face aux Pays-Bas.
Voilà, l'incertitude plane donc toujours autour de sa présence demain soir. En cas de forfait, Antoine Grenier, qui pour le remplacer? Quelle sera la stratégie de Deschamps?
Alors, il y a plusieurs options, évidemment, parce que Didier Deschamps est un coach qui s'adapte à l'adversaire. Donc, selon ce que les Pays-Bas vont proposer, il va travailler sur plusieurs scénarios. Le premier scénario, le plus naturel, le plus classique presque, tellement ça serait du déjà vu, bah, ça serait de mettre Olivier Giroud en pointe, hein, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il est arrivé en Allemagne avec le statut de remplaçant, mais bon, il a l'habitude de démarrer sur le banc et de s'imposer au fil de la compétition. Ça avait été le cas en Russie en 2018, il avait été sur le banc au premier match, ou encore au Qatar où il était doublure de Karim Benzema qui était finalement parti. Le petit problème, c'est que Giroud, bah, il commence à faire son âge, il a un petit souci physique au niveau de l'adducteur, et ça l'empêche d'être à 100% pour l'instant. au cas où Giroud soit titularisé, il faudra peut-être s'attendre à un petit changement tactique avec Antoine Griezmann un peu plus haut sur le terrain, un Marcus Thuram sur le côté gauche qui est finalement son poste de prédilection, hein, sur les ailes. Il avait été très bon d'ailleurs contre l'Argentine en finale du Mondial dans ce poste-là. Autre solution possible, ça serait de placer Marcus Thuram en pointe et mettre Ousmane Dembélé et Kingsley Coman sur les côtés. Solution qui apporte beaucoup de vitesse et de capacité d'élimination sur les ailes. Le problème, c'est que Thuram n'a jamais vraiment convaincu au poste d'avant-centre en équipe de France et que Coman, comme Dembélé, il souffre parfois dans le dernier geste d'un gros manque d'efficacité. Et puis, dernière solution, bah, Randal Kolo Muani, le chouchou de Didier Deschamps. Il est grand, il a marqué face au Chili et au Luxembourg en amical, donc il est plutôt en réussite avec les Bleus. Il peut être utilisé sur le côté ou en pointe. Ça peut être une autre solution, mais Juan, on peut le dire, aucune de ces solutions n'apporte évidemment autant de garanties que Kylian Mbappé lui-même.
Évidemment, et c'est toujours bien de le rappeler. Antoine Grenier, merci infiniment. On vous retrouvera évidemment demain soir pour vous suivre et vivre en direct ce match très attendu France-Pays-Bas. Ce sera à 19h temps universel, mais d'ici là, on vous retrouve tout à l'heure, hein, 19h TU, pour vivre en direct le match choc Espagne-Italie et dans la foulée évidemment Annie Gasnier et toute l'équipe de Radio Foot International pour débriefer la rencontre. Merci à tous les deux, Josué Adouala et Antoine Grenier, donc envoyé spécial de RFI à l'Euro 2024. On va terminer cette première partie avec des questions sur le Burkina Faso. Vous le savez, la situation politique et sécuritaire est particulièrement floue depuis une dizaine de jours. Bonjour Jimmy.
Bonjour Juan.
À Bounia, en République démocratique du Congo, on vous écoute.
Oui, permettez à ce que je présente mes condoléances les plus émues aux victimes de Massila. Juan, après l'attaque meurtrière contre un détachement militaire à Massila, le silence du capitaine Ibrahim Traoré suscite de nombreuses interrogations. Je me pose la question, y a-t-il un lien entre cette attaque et les tirs survenus le lendemain aux abords de la présidence?
Ah, bonne question que vous posez. Attaque qui, je le rappelle, a fait plus d'une centaine de morts, hein, des soldats burkinabés. Bonjour Sidi Yansané.
Bonjour Juan, bonjour Jimmy.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Pour répondre à Jimmy, on va peut-être d'abord retracer la chronologie des événements.
Exactement Juan, le mardi 11 juin, donc la semaine dernière, un groupe armé attaque la commune de Mansila, située près du Niger, où se trouve un détachement militaire. Mais ce n'est que le lendemain, le mercredi 12, hein, que l'on apprend l'existence de cet assaut, suite à des détonations entendu aux abords de la présidence à Ouagadougou. Car juste en face du palais se trouvent les locaux de la télévision publique RTB. Et effectivement, des vidéos montrent plusieurs impacts sur la carrosserie des véhicules stationnés dans la cour du média burkinabé. Plus tard, la RTB explique dans son journal qu'il s'agit d'un tir d'obus accidentel et une source sécuritaire confie à l'AFP que le tir provenait de l'enceinte de la présidence. Mais aucune confirmation, aucune communication officielle pour confirmer ou démentir ni de la junte, ni de la part du gouvernement de transition. Et ce n'est que dans la soirée que des sources informent RFI de l'attaque à Mansila, mais surtout que l'armée est sans nouvelles du détachement militaire qui est sur place, et on parle environ 150 soldats.
Oui, donc tous ces événements se sont produits entre mardi et mercredi soir, et c'est à partir du lendemain, donc le jeudi 13, que la situation devient réellement confuse.
Oui, hein, les soldats de Mansila semblent portés disparus, donc a priori morts ou capturés. Dans le même temps, une source sécuritaire envoie à RFI une note du chef d'état-major général des armées qui sonne l'alerte générale à tous les détachements et ordonne, je cite, de maintenir une QRF, une force d'intervention rapide pour défendre et riposte à l'intérieur de la base. Aucune explication, toujours pas de communication officielle sur Mansila. Ce silence des autorités va laisser place aux rumeurs, notamment celle d'un mouvement d'humeur, voire même d'un possible coup de force contre le capitaine Ibrahim Traoré, qui demeure introuvable depuis les détonations entendues à la présidence. Alors, on ne peut pas dire Juan ou Jimmy, on ne peut pas dire Jimmy avec certitude que le massacre de Mansila soit lié au tir à la présidence, mais il faut rappeler que c'est aussi suite à des attaques djihadistes au lourd bilan à Inata puis à Gaskindé qu'ont été renversés le président civil Rochmar Christian Kabore en 2021 puis le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba en 2022.
Alors finalement le capitaine Ibrahim Traoré est réapparu en fin de semaine. Alors,
vendredi, dans le journal de 13h, on voit enfin le capitaine Ibé à la présidence en grande forme en train de donner son sang à l'occasion de la journée mondiale dédiée. Voilà. Donc il encourage les Burkinabés à faire de même, mais toujours pas de communication sur Mansila ou l'alerte générale. À la veille de la fête de la Tabaski, les djihadistes du Jnim revendiquent l'attaque, comptent au moins une centaine de morts côté armée Faso, et une information qui avait déjà été confirmée d'ailleurs sur notre antenne qui a diffusé les témoignages de rescapés civils. Et puis le jour de la fête, nouvelle apparition furtive de Ibé en train de prier en boubou sous escorte civile. Depuis, RFI a révélé qu'environ une centaine de soldats maliens et russes sont arrivés à Ouagadougou. Beaucoup d'hypothèses